Votre journal, Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Marguerite et bonsoir à tous. Les obsèques des 6 journalistes tués à Gaza la nuit dernière dans une frappe israélienne. Reporters sans frontières demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Emmanuel Macron qualifie de désastre d'une gravité sans précédent l'annonce par Israël d'une expansion de ses opérations dans l'enclave palestinienne. Un an après sa reprise, le métallurgiste Novasco, 760 employés, placés ce matin en redressement judiciaire par le tribunal de Strasbourg. Neutraliser Gravelines, la plus grande centrale nucléaire française, à l'arrêt à cause de bandes méduses qui ont bloqué le système de refroidissement. Enfin, le grand pardon de l'archevêque de Toulouse qui a promu un prêtre condamné pour viol sur mineur en 2006 à un poste de chancelier. Il dit avoir pris le parti de la miséricorde, indignation de la conférence des évêques de France. Des bombardements la nuit dernière, les plus violents depuis des semaines sur l'est de la ville de Gaza. Des chars et des avions israéliens ont visé les quartiers de Sabra, Zaytoun et Shedjaya, quartiers dont les habitants ont dû quitter leur maison. Toujours la nuit dernière, 6 journalistes, dont 5 travaillaient pour Al Jazeera, avaient installé leur tente devant l'hôpital Al-Shifa. Une frappe les a fauchés. Israël revendique cette attaque et affirme avoir visé Anas Al-Sharif, populaire à Gaza, qualifié de terroristes. Le Haut Commissariat des Nations Unies condamne, je cite, le meurtre de ces journalistes et, Solène Delarquier, Reporters sans frontières, appelle à un sursaut international.
Cette attaque était prévisible, estime Reporters sans frontières. Martin Roux dirige le bureau crise de l'association.
Ça fait plusieurs semaines que l'armée israélienne menait une campagne de dénigrement visant Anas Al-Sharif. On avait mis en garde contre la possibilité d'une telle attaque. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la communauté internationale a fait la sourde oreille devant ces mises en garde.
Un scénario déjà vu.
Il y a un peu plus d'un an, le 31 juillet 2024, l'armée israélienne a tué dans une frappe ciblée et revendiquée le journaliste d'Al Jazeera Ismail El-Roul en l'accusant d'être un terroriste.
RSF appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.
Je rappelle qu'on est quand même à près de 200 journalistes tués par l'armée israélienne en 21 mois de conflit. Je ne sais pas comment le dire pour qu'enfin on se rende compte de ce qui se passe.
Cette attaque intervient le jour où Israël s'engage à laisser plus de journalistes internationaux entrer à Gaza. Un leurre, estime Martin.
En fait, ce qu'ils ont dit, c'était qu'ils emmèneraient avec leur armée des journalistes à Gaza. Ce qui n'est pas du tout un accès indépendant qui va permettre de pouvoir faire un travail d'information.
Reporters sans frontières a signé un appel en juin pour demander un accès indépendant aux journalistes internationaux à Gaza.
C'est un autre sursaut qu'Emmanuel Macron appelle ce lundi. Le chef de l'État français condamne, lui, l'annonce par Israël d'une expansion de son opération dans la bande de Gaza qui constitue, selon lui, un désastre annoncé d'une gravité sans précédent, tout en proposant la création d'une mission de stabilisation sous l'égide des Nations Unies. Antoine Maret, replaçons avec vous cette déclaration dans le temps long des positionnements de la France vis-à-vis de la Palestine.
On a longtemps parlé de politique arabe de la France. Elle se fonde sur la politique du général de Gaulle qui, dès son arrivée au pouvoir, marque une certaine distance à l'égard d'Israël, notamment en matière de coopération nucléaire. Cette distance est confirmée lors de la guerre des Six Jours en 1967. Cet héritage est assumé par Georges Pompidou. Pour les deux présidents suivants, c'est plus nuancé. Avant d'être élus, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand sont sur des positions nettement pro-israéliennes, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils se rapprochent de la Palestine. Cette politique arabe de la France se poursuit sous Jacques Chirac, puis elle prend fin avec ses successeurs, selon Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po Paris et auteur de « L'art de la paix » chez Flammarion.
Les présidences Sarkozy et Hollande se sont caractérisées par un rapprochement très fort avec Israël que Emmanuel Macron n'a pas du tout interrompu lors de son premier mandat. Et c'est effectivement devant les atrocités commises dans la bande de Gaza que l'on a vu le président français prendre des positions qui, au contraire, réaffirment un certain leadership diplomatique français en matière de relations avec la Palestine, puisque ça se concrétise notamment par cette annonce d'une reconnaissance de l'État palestinien.
Une annonce qui a fait tache d'huile. Après Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique et son homologue canadien ont déclaré à leur tour la prochaine reconnaissance par leur pays de l'État palestinien.
Le porte-parole du chancelier allemand Friedrich Merz assure que Donald Trump, les dirigeants des principaux pays européens de l'Ukraine, ceux de l'OTAN et de l'Union européenne, participeront après-demain à une réunion à distance au sujet de l'Ukraine deux jours avant la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine en Alaska. Il y a un instant, Donald Trump a dit s'attendre à une rencontre constructive. Le président américain, par ailleurs, s'inspire d'une déclaration de l'un de ses anciens avocats. En 1994, fraîchement élu maire de New York, Rudolph Giuliani avait promis, je cite, de nettoyer la ville. Il y parvint au prix d'une stratégie sécuritaire extrême. Bonsoir Sandrine Etohandeg.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Sandrine, eh bien, c'est exactement ce qu'ambitionne de faire Donald Trump avec Washington.
Oui, effectivement, et la principale annonce du président américain, c'est que la garde nationale va être déployée dans les prochaines semaines dans les rues de Washington. Plusieurs de ses membres, donc, qui vont arriver dans la capitale fédérale pour épauler les autorités locales. Et la deuxième annonce du président des États-Unis concernant Washington.
Eh bien, la deuxième annonce, vous voulez dire le président des États-Unis Donald Trump au salon Washington.
Rescue our nation's capital from crime,
j'annonce aujourd'hui
bloodshed,
un jour historique
and squalor,
pour débarrasser Washington du crime,
this is
des agressions
day
de la saleté,
DC,
c'est le jour de la libération pour Washington.
Our capital back.
On va reprendre notre ville
and placing the DC Metropolitan Police Department
et la police
under
de Washington va être placée directement
control, and you'll
sous
be meeting
contrôle
the people that will be directly involved with that.
Voilà, Donald Trump a signé deux décrets en ce sens. Le président a déclaré l'état d'urgence sur le crime dans le district de Columbia. Il se dit réserver la possibilité de faire appel à l'armée. Graphique à l'appui, il soutient que les agressions et les crimes sont hors de contrôle, pire selon lui que Bogota ou encore que Bagdad. La violence, c'est vrai, est une réalité ici. En 2023, Washington affichait le troisième taux d'homicide par arme à feu le plus élevé parmi les villes américaines de plus de 500 000 habitants. Les agressions violentes, les vols font souvent la une de l'actualité. Mais selon la police locale, les crimes violents ont décliné de 26% lors des 7 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'an passé. Et la criminalité dans son ensemble a baissé d'environ 7%, ce qui d'ailleurs a fait réagir la maire de Washington qui a exprimé que les comparaisons de Donald Trump étaient exagérées et mensongères.
Merci à vous Sandrine Etohandeg en direct de Washington. Il est 18h07, vous écoutez le journal de France Culture. Le métallurgiste Novasco, qui emploie quelques 760 salariés en Lorraine, dans la Loire et le Nord, a été placé ce lundi en redressement judiciaire par le tribunal de Strasbourg, qui a fixé à fin septembre la date limite de dépôt de projet de reprise. L'ex-Ascométal, qui fabrique des aciers spéciaux, notamment pour le secteur automobile, avait été repris en juillet 2024 par un fonds d'investissement britannique aux côtés de l'État français. Un an après sa reprise, Novasco est à nouveau en grande difficulté, Annabelle Grelier.
L'État français a déjà versé 75 millions d'euros. Une dernière enveloppe de 10 millions doit bien intervenir avant le 15 août. Mais c'est le fonds d'investissement britannique Greybull Capital qui a failli à sa promesse en ne versant qu'une toute petite partie des 90 millions restants, précipitant ainsi une nouvelle fois l'entreprise au bord du gouffre. Un mois et demi, c'est le temps que le tribunal laisse à Novasco pour trouver une solution, soit de trouver d'autres investisseurs, soit d'améliorer les offres existantes. Même si le répit semble de courte durée, la décision des juges du tribunal de commerce représente toutefois une dernière chance de sauver Novasco, de l'avis du secrétaire CGT du CSE, Yann Amadoro.
C'est le scénario que les salariés et les syndicats, malgré tout, attendaient, parce que ça nous permet en fait de maintenir un peu la trésorerie, temps d'avoir une période d'observation qui permette, on l'espère, de pouvoir faire émerger des offres de reprise. Donc là, le scénario de la liquidation judiciaire est donc retiré, en tout cas pour le moment. Maintenant, le calendrier est quand même assez contraint. Le 25 septembre, ce qui nous laisse environ un mois et demi, en tout cas aux repreneurs, pour construire des offres engageantes. Et ce qui, avec l'expérience, on peut dire que c'est assez court.
Selon le syndicat, deux potentiels repreneurs auraient manifesté des marques d'intérêt. Un Italien pour le site de Custine en Meurthe-et-Moselle et un Allemand pour le site de Dunkerque dans le Nord. Rien pour le moment ne se dessine pour le site principal d'Agondange qui emploie 450 personnes en Moselle. Pourtant, le site dispose d'une aciérie électrique capable de produire de l'acier décarboné. Agondange, où les syndicats préparent une grande mobilisation citoyenne sur le thème de la réindustrialisation et de la transition environnementale. Le 4 septembre prochain.
Annabelle Grelier, quand le vivant augmenté par le changement climatique grippe la haute technologie, la plus grande centrale nucléaire de France est à l'arrêt à cause de bandes méduses. Elles se sont coincées dans les filtres des stations de pompage qui permettent le refroidissement de la centrale, arrêtant automatiquement les machines. Bonsoir Savannah Ruelland.
Bonsoir.
Savannah, en 2011, précisons-le, à Torness, en Écosse, une centrale nucléaire avait dû s'arrêter pour les mêmes raisons.
Oui, au Japon, en Suède, mais aussi en France, les cas de méduses obstruant des filtres de centrales nucléaires se sont multipliés ces dernières années. Dans le cas de Gravelines, la présence de méduses, amatrices de mer chaude, dans la mer du Nord interroge. Pour le physicien climatologue François-Marie Bréon, elle s'explique par le réchauffement climatique.
Les méduses, traditionnellement, sont plus présentes dans les mers chaudes. Leur vitesse de développement augmente avec la température. Par conséquent, là, on a des eaux qui sont exceptionnellement chaudes un peu partout dans le monde, et en particulier en mer du Nord. Et donc, on se retrouve avec des bandes méduses dans des zones où on n'a pas l'habitude d'en avoir, effectivement. Le facteur réchauffement climatique va entraîner la multiplication des bandes méduses dans ces zones-là.
Pour le chercheur, la présence de méduses n'est pas une fatalité, mais une nouvelle contrainte à prendre en compte, comme cela a été fait dans d'autres centrales nucléaires.
Ce n'est pas la seule qui se refroidit à l'eau de mer. Ailleurs en Normandie, vous avez Flamanville, vous avez Dieppe et vous avez Penly. Il y a des moyens de tirer de l'eau sans être affecté par les méduses. Simplement, les moyens qui avaient été mis en œuvre à Gravelines, puisqu'il n'y avait jamais de problème de méduses, on ne les a pas mis à ce moment-là. Ça veut dire que sur les prochaines centrales nucléaires, il faudra qu'elles soient résilientes à la présence de méduses. Ce n'est pas un problème qui est irrémédiable.
EDF précise que ces arrêts n'ont pas eu de conséquences sur la sûreté des installations, du personnel ou sur l'environnement. Cette situation n'est pas non plus matière à s'inquiéter du point de vue de nos besoins en énergie, car en été, ils sont réduits.
Merci à vous, Savannah Ruelland. Vers 16h, il faisait 41,6 degrés à Bordeaux, soit le record de chaleur absolue jamais atteint par la ville. Météo France. Place pour demain, 16 départements en alerte rouge canicule contre 12 aujourd'hui. C'est le sud-ouest qui souffre le plus de la chaleur. Catherine Vautrin, la ministre du Travail, a rappelé cet après-midi les mesures de prévention, rester au frais, s'hydrater et faire attention aux personnes âgées et d'anticipation avant le week-end du 15 août. Bonsoir Guillaume Fariol.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années précédentes et notamment à la canicule de 2003?
Alors même avant de vous parler des étés précédents, je peux vous parler de la dernière vague de chaleur qui est arrivée, c'était fin juin, début juillet. Une vague de chaleur extrêmement précoce, très tôt dans la saison. Et la Santé publique France avait décompté 480 morts en excès pendant cette dernière canicule. Si on regarde l'été dernier, 3700 décès attribuables à la chaleur en été 2024, 5000 morts à l'été 2023. Ce sont des chiffres qui restent très faibles par rapport à ce qu'on avait vu à, évidemment, cette canicule de référence à l'été 2003, 15 000 morts. Et là, il y avait eu une prise de conscience parce qu'on avait vu, évidemment, beaucoup de personnes âgées qui étaient décédées dans les EHPAD et un pays qui semblait désarmé et surpris face à cette canicule qui avait été extrêmement longue, extrêmement étendue et extrêmement intense à l'été 2003. Depuis, il y a donc eu cette prise de conscience, salle climatisée dans les EHPAD, salle rafraîchie par les communes mises à disposition pour les personnes notamment sans-abri qui sont très exposées à la chaleur. Et cet été 2003, c'était une bascule en fait dans la gestion des canicules. Avant, on se rendait peut-être pas aussi compte du risque parce qu'il était moins fréquent qu'aujourd'hui. Et on le dit très souvent, les canicules, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes en France. Et c'est d'ailleurs à cet été 2003, ou en tout cas l'été suivant, que Météo France a créé les vigilances canicules. Avant, ça n'existe pas.
Merci Guillaume Fariol. C'est suffisamment rare pour être souligné. Des voix indignées se sont élevées au sein de l'Église catholique après la nomination d'un prêtre condamné pour viol sur mineur en 2006 à un poste de chancelier. Une promotion à ce poste administratif et de conseil validée début juin par l'archevêque de Toulouse qui estime, je cite, avoir pris le parti de la miséricorde. Des propos qui ont suscité l'exaspération de plusieurs collectifs de victimes et aussi de l'Église. Et c'est au tour cette fois des évêques de France de prendre la parole. Bonsoir Jeanne Serrin.
Bonsoir.
La conférence des évêques de France appelle l'archevêque de Toulouse à reconsidérer cette nomination.
Cette nomination ne peut que raviver les blessures et déconcerter les fidèles, estiment dans un communiqué les évêques de France. Une réaction jugée tardive, mais saluée par les collectifs de victimes. Alain Esquer, porte-parole des victimes de Bétaram.
C'est très important pour nous, et y compris pour la victime, que cette personne elle soit mise à l'écart, hors d'état de nuire. qu'on n'en entende plus parler.
La Conférence des évêques de France précise avoir engagé un dialogue constructif avec l'archevêque de Toulouse, car il est le seul à pouvoir révoquer cette nomination. Jusqu'alors, ce prêtre était employé aux archives de son diocèse. Le poste de chancelier resterait une fonction administrative, mais avec plus de responsabilités. Nous n'avons rien à lui reprocher depuis 30 ans, a déclaré l'archevêque pour justifier cette nomination. Il ne s'agit pas de relativiser un crime, a-t-il ajouté. La victime doit être aidée, mais elle doit aussi aller de l'avant, je le cite, pour se reconstruire. Des mots qui ont profondément choqué Constance Bertrand, porte-parole des victimes de l'institution catholique Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine.
Les justifications de l'archevêque sont une gifle. J'aimerais que cet archevêque fasse acte de contrition, puisque c'est le vocabulaire de l'Église. Parler de miséricorde pour un violeur d'enfants condamné qu'à 5 ans de prison pour un viol sur mineur, c'est abject. C'est abject de penser qu'on puisse encore en 2025, après tout ce qu'on a fait, tout ce qui se sait maintenant, dire ce genre de mots.
Avec d'autres collectifs de victimes, elle demande à ce que tous les prêtres ou religieux condamnés pour des faits de violence soient interdits d'exercer au sein de l'Église catholique.
Merci à vous Jeanne Serrin. La météo de demain, rappelons-le, caniculaire, vague de chaleur d'une exceptionnelle intensité. Martel Météo France. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia, à la technique Clara Galivelle.